Merci au groupe de louange. Et on va continuer par partager, c'est vrai, la Sainte-Seine, nous souvenir de ce moment. Et c'est vrai que c'est un moment particulier de se rappeler vraiment ce que ça a été pour Christ lorsque il a vécu ses vies, cette vie courte, et au terme de sa vie, ses heures à la croix et avant. Et c'est vrai qu'on voit dans ce qu'on vit ces jours-là. Moi, ce qui me frappe encore aujourd'hui, c'est la capacité que les hommes ont, finalement, pour se retrouver. Et il y a, à la suite de cette épreuve vraiment douloureuse et difficile pour la France, et au-delà même de la France, il y a ce désir de communier ensemble. Communier parce qu'il y a eu un crime horrible qui a été commis, parce qu'il y a des innocents qui ont payé. Mais qui me frappe aux yeux, malgré tout, quand même, c'est cette idée que il y a ce besoin d'identification, et beaucoup, donc, se sont identifiés à Charlie. Et c'est pas pour rien, vraiment, que le Seigneur a désiré nous mettre ce repas, pour que chaque fois qu'on se retrouve entre nous, on communie. On se souvienne, vraiment, de ce crime horrible, il y a plus de 2000 ans. Enfin, il y a 2000 ans. Et il y a ce parallèle à faire. Ce n'est pas pour rien que nous avons à nous souvenir de ce crime horrible. Qui est-ce qui est à, lorsque Christ est mort sur la croix, cet innocent qui est mort sur la croix, comme il y en a qui sont descendus dans les rues pour contester, pour s'opposer et dénoncer ce qui s'est passé? Non, au contraire, avant, ils étaient dans la rue pour l'injurier, pour le maudire, pour dire, pour crier et oser crier « crucifie-le ». Et moi, ça me donne de la force ce matin de pouvoir prendre vraiment, vraiment conscience, et tous ensemble, avec vous, mes frères et sœurs, de communier ensemble autour de ce repas que le Seigneur lui-même nous a laissé. Et nous le faisons fidèlement. Nous voulons le faire finalement, dimanche après dimanche, nous souvenir de cette mort qui a été horrible. Parce que cette mort, c'est un innocent qui est mort. Cette croix, c'est horrible ce qui s'est passé à la croix. Mais au-delà de cela, il est ressuscité. Et nous a donné la vie. Et combien nous pouvons nous souvenir encore beaucoup plus de cela quand nous savons que Christ a ressuscité. Il n'est pas resté sur cette croix. Et nous voulons tous faire revivre Charlie. Enfin, tous, je ne sais pas, mais il y en a qui veulent faire revivre Charlie. Ils veulent que Charlie ressuscite. C'était dans le plan de Dieu que Christ ressuscite. Qu'il revienne à la vie. Et ça, c'est une réalité dans nos vies. Et on le verra le long du message. Comme c'est important de se positionner, nous, en tant qu'enfants de Dieu, les fils de Dieu, des êtres vivants, ressuscités, et plus que vainqueurs. Alors, je voudrais simplement, ce matin, voilà, que rappeler cette mort à la croix, communier ensemble autour de cette, nous associer à cette mort horrible qu'il y a eu à la croix, pour nous souvenir vraiment tous ensemble de ce qui s'est passé. Parce que pour nous, ça, c'est le début, cette croix, c'est le début de notre vie, c'est le début d'une nouvelle vie, avec Christ, avec Dieu, c'est quelque chose de fou. Alors ce matin, s'il y en a deux qui veulent s'approcher, on va partager ensemble. Et ce matin, ne vous gênez pas pour prendre ce pain et ce vin, pour communier, pour vous souvenir. Faites-le, parce que ça, c'est pas quelque chose qui va transformer fondamentalement votre vie, mais c'est quelque chose qui prend vos tripes, qui prend votre esprit, qui prend votre corps, simplement pour vivre à la façon dont il veut que nous vivions. Donc je n'ai pas demandé spécifiquement à quelqu'un, mais vraiment, soyez volontaires pour venir distribuer et encourager nous les uns les autres à communier pour ce moment.
Tu veux prier pour le pain?
Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies Seigneur, merci pour le sacrifice de ton fils sur la croix Seigneur, merci parce que tu es amour, tu donnes la paix aussi Seigneur dans nos cœurs et dans nos vies Seigneur, merci pour ta grâce Seigneur, merci pour encore le corps de ton fils donné pour nous, pour nos péchés, pour notre vie. Ton Saint-Nom. Amen.
Seigneur, nous voulons nous rappeler que il y a 2000 ans aussi, le sang d'un innocent a coulé. Et s'il a coulé, c'est pour nous. C'est pour nous laver de nos péchés. Et c'est pour nous, pour renouer pour nous cette relation avec notre Créateur. Nous voulons te remercier pour ta résurrection. Nous voulons, c'est vrai, te demander que tu nous unisses tous en ton nom Seigneur, autour de ce sacrifice, autour de cette mort, mais autour de cette résurrection, autour de cette vie. Nous voulons te rendre gloire et penser à toi Seigneur, spécialement dans ce repas que tu nous offres. Béni sois-tu Père.
Voilà, pour ceux qui le souhaitent, je vais passer dans les rangs avec la coupe.
Et pendant que voilà, le ramassage des petits verres, là, je veux vous dire que moi, j'ai du plaisir, franchement, à vous revoir tous. Après une semaine un peu comme ça fait du bien de se retrouver avec ceux avec qui, justement, on peut communier, avec qui on peut se comprendre par rapport à ce que nous vivons. Et moi, ça me fait plaisir de voir Mélodie avec son arboré des beaux cœurs sur sa... Ça me fait plaisir de voir Pierre qui est là. Ça me fait plaisir de vous voir tous, même des personnes que l'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, soyez bénis chacun, soyez encouragés et bénis ce matin par la parole. Et je voudrais remettre encore ce moment entre les mains de Dieu. Oui, notre Dieu, nous voulons nous confier en toi encore parce que ta parole est tellement riche, ta parole a tellement de choses à nous dire. Et par le Saint-Esprit aussi, tu veux nous révéler des choses. Tu veux nous faire encore la grâce de nouvelles révélations, de nouvelles découvertes pour que nous fassions un pas supplémentaire vers toi. Et nous comptons sur toi seulement. Sois béni, Père, et tu nous parles par bien d'égards, par les circonstances aussi. Et nous voulons que tu nous bénisses chacun. Nous avons prié pour cela dimanche dernier, pour cette année, et nous voulons continuer de demander la bénédiction. Au nom puissant de Dieu, du Seigneur Jésus. Amen. Oui, voilà, ce matin, j'étais accueilli en voyant ces nouveaux mots. Je pense que c'est les ados qui ont écrit ça. Et c'est vrai que c'est des vœux, finalement, que la grâce de Dieu soit sur nous, que l'amour vraiment nous anime, que ce Dieu éternel nous accompagne à chaque instant, que la paix, que le pardon fasse partie de nos vies. Que la bonté, que la compassion, voilà, un beau programme en tous les cas pour cette année. Merci pour ça. Je ne sais pas ce qui a eu cette idée, mais c'est chouette de pouvoir nous renouveler et nous mettre dans cette dynamique tout au long de cette année. Et c'est vrai que dimanche dernier, on a pris un culte particulier pour nous bénir pour mutuellement, on s'est bénis mutuellement pour ceux qui étaient là, pour bénir dans nos familles, nos enfants, et pour bénir aussi notre monde, pour bénir nos ennemis, les ennemis de nos âmes, les ennemis de la foi, pour les bénir. Et moi, ce qui m'a été frappé, on a béni, et cette semaine, on voit la réponse de cette bénédiction. On voit comment, finalement, je dis réponse, c'est pas une réponse, mais on voit comment l'horreur, les choses comme ça, à la place de la bénédiction, qu'on pense, nous, pas être bénédiction, les choses arrivent. Et ça me fait penser vraiment à la vie de beaucoup de personnes et d'hommes de Dieu dans la parole de Dieu. Et je prendrai cette histoire d'Abraham, le père de la foi. Et c'est vrai que c'est étonnant de voir que, dans un premier temps, c'est avec son père, donc Térakh, ils partent de Ur de Chaldée pour aller en Canaan. Et ils doivent aller en Canaan. Ils ne savent pas trop pourquoi ils doivent aller, mais ils doivent y aller. Et puis, ils s'arrêtent à Charan. Et Charan, ça veut dire les petits fruits. Ça veut dire les petits fruits. Puis ils restent dans cette ville-là un moment, jusqu'à ce que quand même là, Genèse 12, on l'a rappelé dimanche dernier, Genèse 12, je te bénirai. Pars de ton pays, pars de ta patrie, pars de ce que tu connais et va en Canaan, continue. Et Canaan, on sait ce que c'est Canaan, c'est le pays de la promesse, c'est le pays où ruisselle le lait et le miel. Ne nous contentons pas donc des petits fruits pour cette année, mais vivons réellement dans cette dynamique, marchons vers Canaan, ce pays où ruisselle le lait et le miel. Et si on continue, voilà, on peut dire, c'est chouette cette parole, c'est vraiment ça, c'est cette dynamique, mais ce n'est pas si évident que ça. Et c'est ce que fait par la foi Abraham, il quitte sa patrie et il se met en route, et il va à Canaan, et il avance en Canaan, vous continuez ça dans Genèse 12, et il s'avance toujours plus dans le sud, et qu'est-ce qu'il y a dans le sud? Il y a une famine en Canaan. Voilà la bénédiction. La bénédiction, c'est la famine. Est-ce que c'est ça la bénédiction? Est-ce que pour vous, ça vous parle, ça? Et c'est difficile de pouvoir dire « Dieu bénit » et finalement, c'est la famine. Mais ça ne finit pas là, ça ne continue pas là l'histoire. C'est que la famine aidant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que finalement je reste dans la famine et je m'attends vraiment forcément à Dieu? Et là, ben, il continue toujours plus dans le sud finalement. Alors on ne sait pas s'il fait bien ou pas bien, Abraham, mais il va en Égypte. En Égypte là-bas, et parce que oui, il y a encore de la nourriture, il y a peut-être certainement des bonnes choses. Et là, il est obligé de compter sur sa femme pour sa protection. Et finalement, il dit que sa femme est sa sœur et finalement, c'est le pharaon qui prend Saraï donc dans son sérail pour faire ce qu'on peut imaginer qu'il puisse en faire. Et là, à la suite de ça, eh ben, forcément, le pharaon, il y a plein de plaies qui arrivent dans ça. Et puis le pharaon, ça lui ouvre les yeux, mais tu ne nous as pas dit, finalement, c'est ta femme. Et là encore, c'est la grâce de Dieu. C'est là Dieu qui vient refaire remonter vraiment toute son amour, sa patience, sa grâce, sa miséricorde. Ça vous parle, ça? Ça nous parle. Et tout cela pour dire, la bénédiction, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que nous, on pense avoir mis la bénédiction? Est-ce que c'est dans nos biens matériels? Est-ce que c'est dans notre façon de vivre? Dans le fait que nous ressentons par nos sentiments la joie, le bonheur, la paix, comme cela? Ou c'est quelque chose vraiment d'intense, de spirituel, qui dépasse vraiment simplement ce niveau-là de notre compréhension humaine? Et ce matin, sur lequel je voudrais revenir, c'est ça. Vraiment, on a insisté, ça nous a rappelé, ça ne vient pas de nous, je pense que c'est le Seigneur, le Saint-Esprit qui nous parle depuis un certain moment, pour que vraiment notre intelligence soit renouvelée. Que notre intelligence soit renouvelée par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Cela veut dire ne plus vivre selon notre façon de penser humaine. Vous savez, il y a un psaume 23 qui dit « Il reste homme, il restaure mon âme ». Et moi, il me semble qu'après tout ça, cette semaine, franchement, c'est pas le message que je voulais apporter ce matin, mais comme les choses, les circonstances on fait évoluer un peu les choses. Le psaume 23 dit « Il restaure mon âme ». Il restaure mon âme. Ça veut dire que notre âme, restaurée, ça veut dire que c'est quelque chose qui est en ruine, quelque chose qui n'est pas forcément en bon état, et il faut le restaurer. Et ça, Christ peut le restaurer. Et on voit avec nos façons de penser, on peut voir comment, dans ce monde, beaucoup de choses, cette pensée que nous avons besoin toujours de relativiser ce que Dieu dit. Cette pensée que finalement Dieu n'est pas totalement juste. Que Dieu, c'est quelqu'un qui a mis en route ses religions, qui a mis en route tout un système pour rendre esclaves les hommes. Et nous avons grandissons avec, finalement, c'est notre culture, et on peut pas, c'est difficile de s'y dégager, de dire finalement que oui, nous n'avons pas besoin forcément toujours de Dieu. Qu'on n'a pas forcément, on peut être une certaine indépendance vis-à-vis de Dieu aussi. Et ça, c'est clair, c'est un mensonge, c'est faux. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'avoir notre intelligence renouvelée, nous avons besoin d'avoir notre âme qui est restaurée. Restaurée, ça veut dire que, avant la chute, dans le jardin d'Éden, là, l'âme a été, pas besoin d'être restaurée, elle était vraiment en communion avec l'Esprit de Dieu, et il n'y avait pas de différence. Et le fait de dire maintenant « mon âme restaure mon âme » ou « l'Éternel va restaurer mon âme », c'est-à-dire qu'il va la mettre comme ça, il va faire ce travail de l'âme pour que nous puissions la mettre en adéquation avec l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est un travail qui se fait peut-être à haleine, mais c'est des choses qu'on a rappelées encore dimanche dernier. Raymond rappelait ce passage d'Éphésiens 1, verset 3. Est-ce qu'il est affiché? Je ne sais plus si je l'ai mis. Non, c'est pas là. Ouais, ben j'ai sauté déjà un truc, vous voyez. Ouais, je voudrais revenir quand même là-dessus, parce que Jean 10, verset 10, ça m'a frappé aussi par rapport à ce qu'on a vu, on a vécu. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Notre âme, elle est sujet justement à toute cette flot de pensées qui vont contre Dieu. Et c'est cette stratégie, vraiment, on le connaît aussi par le parabole de la semence ou du semeur, où combien il y a d'occasions pour que la graine puisse être enlevée, puisse mourir, ainsi de suite, pour que la parole de Dieu ne puisse pas prendre corps, prendre effet en nous. Et ça, c'est le rôle du voleur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Bon, on sait qui c'est le voleur. On sait que l'ennemi, c'est Satan. On sait que c'est lui qui va, de toute manière, essayer de nous enlever de ces bénédictions-là, de nous faire croire que la vie en abondance, c'est faux, que ça, on n'en a pas besoin, que c'est quelque chose de faux. Ça, de suite, c'est une parole que nous voulons des fois écarter. Et on a besoin d'avoir notre âme restaurée, d'avoir notre intelligence qui est renouvelée. Et cette parole, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance », ça, c'est les paroles de Jésus. Le Jésus, le Fils de Dieu, c'est lui qui nous le dit. Ce n'est pas un simple illuminé, c'est lui, le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre pour nous dire ces paroles, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Est-ce que nous sommes de ces brebis? Est-ce que nous sommes de ces brebis? Est-ce que nous voulons vivre justement dans cette abondance? Et ça, c'est partie des bénédictions. Ce n'est pas des bénédictions toujours encore pour nos sentiments, notre paix, notre joie, ce que nous ressentons, mais c'est cette bénédiction spirituelle. Et donc, ce que nous a rappelé Raymond, c'est ce passage d'Éphésiens 1, verset 3, que tu peux le mettre, il y est ou je ne sais plus, peut-être que je ne l'ai pas mis. Mais allez, vous l'avez tous une Bible, je suis sûr. Alors je vais le lire. Allez, c'est où? Éphésiens 1, verset 3. Non, il faut se répéter ces choses-là, parce que justement, à force de les répéter, on commence à réaliser ce que ça veut dire dans la vie concrètement. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et c'est pour ça que j'ai mis « Je suis en Christ ». Je suis en Christ. Nous sommes bénis en Christ de toutes les bénédictions spirituelles. Je suis en Christ. Et ces bénédictions spirituelles, c'est cela cette vie en abondance. Et nous devons y rentrer, nous devons continuer, rentrer en Canaan pour goûter de tous ces fruits et de cette vie en abondance. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que notre vie donc peut être régie par tout cet état de fait. Soit nous vivons sur un principe de vie que nous sommes dérobés, nous avons été égorgés, nous avons été détruits, ou soit on vit avec cet état d'esprit que nous sommes vivants, que nous avons cette vie en abondance. Et ça conditionne tout de notre vie. Combien on connaît de chrétiens qui végètent, d'enfants de Dieu qui ont rencontré Christ, qui ont fait une démarche, qui ont même se sont fait baptiser, mais qui finalement qui végètent. Combien on en connaît des personnes comme ça? Et quand même nous, moi, c'est ce que ça m'est pas arrivé, finalement, de végéter et d'arrêter d'avancer. Mais tout simplement parce qu'arrive un moment, la parole, où je préfère croire que j'ai été dérobé, on m'a volé des choses, où j'ai été détruit, et je préfère croire ça que croire que réellement, Christ, j'ai ma vie, j'ai la vie en abondance. Pour nous tous, enfants de Dieu, Jésus n'est pas venu pour nous sauver. Il n'est pas venu pour nous sauver pour que finalement, on en reste là, pour que nous continuions à vivre selon les principes de ce monde, selon notre âme qui est non restaurée. Non, il est venu pour qu'on ne soit pas seulement des charlies avec des bonnes pensées, avec des bons arguments. Il n'est pas venu pour que nous soyons seulement ça, mais il est venu pour nous donner cette vie en abondance. Et c'est pour cela que Jésus, vraiment, a accepté de venir à notre rencontre, de souffrir vraiment cette mort à la croix qui a été horrible. Et surtout, il nous a donné son nom. Il nous a donné, c'est Paul qui en parle le mieux, qui insiste pour nous dire que nous sommes en Christ. Vous êtes en Christ, en Christ. Les bénédictions dans les lieux célestes, en Christ. Vous êtes en Christ. Et moi, j'ai envie de me répéter tous les jours, ça, de cette année, je suis en Christ. Je ne suis pas simplement Charlie, je suis en Christ. Mais finalement, cette vie, en abondance, elle dépend aussi beaucoup de notre connaissance que nous avons de Dieu. Et bon, voilà, on rappelle encore des choses que... Nous, on s'amuse beaucoup là, le mardi, pour ceux qui viennent pour connaître Dieu. On a encore appris des nouvelles choses mardi dernier. On ne vous dira pas, c'est secret, mais... C'est... Ouais. On garde ça jalousement. Non, on a vu cet attribut de Dieu jaloux, quoi. C'est bon, bref, c'est quelque chose de, c'est une qualité, la jalousie, savez-vous. Mais nous, on le sait. Bref, allez, c'est pour vous donner un peu envie que d'avancer justement dans cette idée que nous avons besoin de connaître Dieu. Et ce qu'on connaît justement de Dieu, on le connaît par la parole. Et finalement, si on connaît mieux les principes qui régissent notre monde, mieux que la parole, eh bien on va vivre selon les principes de ce monde. Si on connaît la parole de Dieu, on va vivre finalement selon les principes de la parole de Dieu. Et notre vie chrétienne, c'est la même chose. Elle se calque vraiment sur ce que l'on connaît. Et notre âme, elle connaît plein de choses de notre vie, de ce monde. Elle est calquée par rapport à ça, elle est éduquée pour ça. Mais elle a besoin d'être restaurée, elle a besoin d'être renouvelée, d'avoir son intelligence qui change. Alors ce qui s'est passé peut-être dans le temps, l'erreur que peuvent faire peut-être les enseignants de la parole, c'est que peut-être ils ont trop insisté sur le fait que le diable, c'est le prince de ce monde. Et que finalement, on doit subir cette adversité comme étant une fatalité. Mais peut-être justement on a oublié vraiment qui nous sommes. On a oublié que nous sommes nous-mêmes morts aux principes élémentaires de ce monde. Ça c'est Colossiens 2, verset 20 qui le dit. On est morts par rapport à ces principes-là. Ça c'est la croix de Christ qui nous rend capables d'être morts à ces principes-là. Et finalement, on n'a pas assez insisté le fait que nous appartenons réellement au royaume de Dieu. Que nous appartenons au royaume de Dieu, un royaume de rois et de sacrificateurs, que nous sommes nous-mêmes des fils de Dieu, que nous sommes nous-mêmes des princes, et que ici-bas nous pouvons commencer à régner et nous régnons. Mais on peut se poser cette question, est-ce que franchement on vit comme des princes? Alors je rappelle, vivre comme des princes, pas toujours sur des principes humain et prince comme on voit avoir des bénédictions uniquement matérielles et sentimentales, et ainsi de suite. Non, comme des princes qui ont une réelle victoire, un règne dans le monde spirituel. Et pour lequel, justement, notre âme restaurée, toute autre chose s'efface, finalement. Les choses comme ça de ce monde prennent moins d'impact et de pression sur nous. Et donc, bien sûr, il n'est jamais trop tard pour prendre conscience vraiment de notre statut, pour vivre vraiment ce que nous sommes réellement. Et ça, vivre réellement sans se laisser dépouiller de notre bien le plus précieux. Notre bien le plus précieux, c'est ce que nous sommes, c'est que nous sommes en Christ. C'est que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Romains 8, verset 31, nous dit que, et 32, 33, ne disent que rien ne pourra nous éloigner du sang de Christ. Je sais pas. C'est pas comme ça que c'est dit, mais... Ouais, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses en lui ? Qui accusera les élus ? Celui, c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Ça, c'est cette réalité de fait que Dieu est pour nous. Que nous sommes aussi un peu plus bas, que nous sommes aussi des plus que vainqueurs. Ce sont des réalités de la parole de Dieu, et ça, nous avons besoin de vraiment de s'approprier. Nous avons besoin d'avoir cette intelligence qui est totalement renouvelée pour revivre ces choses-là. Et justement, Pierre et Jean dans l'Apocalypse nous disent ces choses-là. 1 Pierre 2, verset 8, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Apocalypse 1, verset 6, « Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. » Tout ça, c'est du présent, tout ça, c'est actuellement. C'est ici, à Prêves-Saint, voilà ce que nous sommes. Mais ça, on sait bien que l'ennemi ne veut pas ça que nous croyons. L'ennemi ne veut pas qu'on grandisse. L'ennemi ne veut pas que nous devenions des adultes. Et c'est pour ça qu'il veut dérober, c'est pour ça qu'il veut détruire et enlever toute cette nourriture dès qu'elle arrive à prendre vraiment position dans nos cœurs et dans notre vie. Et c'est pour ça que c'est important d'entendre la parole, pour que vraiment peu à peu, notre intelligence soit renouvelée, pour pouvoir discerner quelle est pour nous la volonté de Dieu qui est agréable et parfaite. Alors avoir son intelligence renouvelée, c'est un défi immense pour nous. Car on ne le veut pas forcément. Si on voit tellement d'attraits, tellement de plaisirs, tellement de bonnes choses dans ce monde, que finalement pourquoi aller vivre ailleurs ? Vivre autre chose, avoir cette intelligence spirituelle qui prend le dessus. Vraiment, c'est ce conflit constant qu'il y a dans la parole de Dieu et surtout dans les écrits de l'apôtre Paul, où il y a ce vieil homme qui, lui, veut toujours nous recentrer sur nos petits plaisirs, sur nos sentiments, sur ce que nous ressentons. Et d'un autre côté, il y a l'esprit qui veut aller. Non, c'était avant. Maintenant, reviens. Reviens vers moi, reviens à la parole, reviens à la source. Et enfin, c'est vivre concrètement et tout à fait naturellement ce que nous sommes en Christ. Parce que tout simplement, notre vieil homme est mort. Colossiens encore nous dit que, et Romains 6 aussi nous parle de ça, que nous sommes crucifiés avec Christ. Tout cela, cet homme-là, cette partie-là est morte. Alors pourquoi encore lui donner, essayer de lui donner de la nourriture ? Pourquoi encore essayer de l'appâter par autre chose ? Je ne sais pas, pour me donner un peu une image, je ne sais pas, est-ce qu'il y a ici des Suisses ? Je sais qu'il y en a. Bon, est-ce qu'il y en a qui parlent allemand là ? Qui parle allemand ? Suisse-allemand. Et qui c'est qui est originaire d'un canton suisse-allemand ? Mais est-ce que vous êtes suisse-allemand ? Hein ? Ah, et c'est là la question. Moi, pour moi, vous êtes des Suisses allemands. Parce que vous êtes originaire d'un canton suisse allemand. Et je pense que c'est vraiment ça l'ambiguïté. Christ a fait de nous des enfants de Dieu. On est enfants de Dieu. Mais finalement, est-ce que j'entends la parole? Alors, quelle parole? Je parle suisse allemand. Ma comparaison, c'est la parole de Dieu. Et le français, c'est... Épargnez-moi cette comparaison. C'est la langue de ce monde. Hein, voilà. Mais est-ce que... Hein, non, mais je m'arrête là dans la comparaison. C'est juste pour vous donner une image. Non, mais on en a discuté justement aussi mardi. Il paraît qu'au ciel, on parlera allemand. C'est certaines personnes qui ont dit ça. Qui ont dit ça dans le passé. Bref. Non, mais... Est-ce que vous voyez où je veux en venir? On est des enfants de Dieu. Nous avons nos noms qui sont écrits dans le ciel. Mais est-ce que finalement, j'entends cette parole, j'entends ces mots qui me disent réellement que je suis ce que je suis? Et donc, comme je parle, moi aussi, je suis allemand, je suis originaire de Berne, moi. Mais vous savez, mon suisse allemand, c'est une catastrophe. Je ne sais même pas entendre un mot. Mais ça me... Oui, en plus. Oui, mais je suis adopté. C'est important, finalement, de réaliser où on en est, finalement. Et avec Dieu, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir notre intelligence renouvelée pour entendre cette parole, pour la comprendre. Comme on a besoin d'entendre, de prendre des leçons et d'avoir son... pour commencer à apprendre allemand. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très présent dans la parole de Dieu. Et je dirais même que Jésus a expérimenté ça. Jésus, quand il était... pendant 30 ans, il a vécu comme un homme. Pendant 30 ans, il a grandi. Mais pendant 30 ans, pourtant, il avait cet amour de la parole de Dieu. Il allait souvent être enseigné, il allait à la synagogue. Mais ce qui est frappant, c'est que lors de son baptême, il reçoit aussi le Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas le Saint-Esprit avant, puisque le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe. Et à la suite de ça, l'Esprit prend Jésus et l'amène sur une montagne pour qu'il soit tenté dans le désert, pour qu'il soit tenté 40 jours. Et pendant ces 40 jours, finalement, qu'est-ce qui se passe? Il est là dans cette période où il a besoin finalement d'oublier sa vie en tant qu'homme. Même s'il avait, il a baigné dans la parole de Dieu, il avait le poids aussi. La parole dit qu'il a été... En toute chose, il a été homme aussi. Il a été homme. Et pendant ces 40 jours, il a peut-être eu besoin aussi d'oublier, de passer un peu, d'avoir son âme finalement restaurée par rapport à l'image et à sa nature divine sur laquelle il était destiné. Il est venu pour ça. Alors combien plus lui qui a vécu 30 ans, 30 ans, on a le temps de prendre des mauvaises habitudes, même si on est le Fils de Dieu. Et nous, on sait ce que ça veut dire. Nous sommes aussi des enfants de Dieu et on voit quel est le poids de nos habitudes, le poids de notre âme qui a besoin de restaurer et qui a du mal à avoir son intelligence renouvelée. Et à partir de là, paf, le Saint-Esprit, la connaissance que Jésus avait de la parole de Dieu, mais ça, c'est une bombe. C'est une bombe. Pendant 3 ans, voilà, on est là. Non, mais c'est terrible. C'est terrible. Quel est l'impact de cela, la réunion du Saint-Esprit, de la parole de Dieu? Alors, nous sommes en route en Canaan. Nous devons marcher, nous devons... Putain, ça avance vite. Je voudrais encore laisser un dernier passage, parce que c'est ce chemin sur lequel nous devons continuer. C'est Éphésiens 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc, vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Jésus entendu, pendant toute sa jeunesse, il a entendu la parole de Dieu. Nous, nous avons entendu la parole de Dieu. Ne dites pas que vous n'avez pas entendu la parole de Dieu. On a entendu la parole de Dieu. Comme certains d'entre vous, comme Timothée, dès votre plus jeune âge, vous avez entendu, vous avez été bercé dans la parole de Dieu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre pensée, vous dépouiller de votre pensée, restaurer votre âme, dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Apprendre de Christ, c'est bien beau de l'avoir entendu. Apprendre de Christ. Christ, ça veut dire la croix. Apprendre Christ, c'est ça. Ça veut dire que pour nous, réaliser ce que la croix, cela veut dire. Ça veut dire avoir crucifié justement ce vieil homme. Ça veut dire balayer d'un revers de main tout ce qui est que notre âme a besoin encore de vivre selon les principes de ce monde. Et Paul disait, je prêche que seulement Christ crucifié, c'est ça. Et après, il y a le dépouillement du vieil homme. Dépouillement du vieil homme, ça veut dire ce n'est plus l'ennemi qui va nous dépouiller, ce n'est plus le voleur qui va venir nous dérober ce qu'on reçoit. Mais c'est nous, c'est le Saint-Esprit en nous qui va nous aider à dépouiller le vieil homme pour que finalement nous devenions cette nouvelle création qui détruit l'ancienne. Verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Ça y est, on y est encore. Renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Ça, ce sont des étapes. Et la dernière, à revêtir l'homme nouveau. Ça y est, allez, vous marchez en Canaan. C'est ce que nous sommes. Nous sommes revêtus maintenant de cet homme nouveau. L'homme nouveau, c'est lui, ce prince et ce roi que je suis. Et finalement, c'est... Trois versets correspondent un peu à des étapes dans nos vies. Et comme cela, on a parlé de ça aussi avec le peuple d'Israël, ça correspond à des étapes, à des cheminements au niveau du peuple d'Israël. Et puis, il y a deux étapes. Et entre ces deux étapes, comme pour Jésus, il y a eu le désert. Le désert, lui, Jésus était particulier, ça a duré que 40 jours. Pour nous, ça peut durer des fois beaucoup plus longtemps. Beaucoup plus longtemps. Et puis peut-être on peut commencer à faire un pas et puis revenir au désert. Jésus, on voit ce qui s'est passé, 40 jours au désert, et boum, c'est ça, c'est nous-mêmes. C'est le fruit qui a... 2000 ans après, ça court toujours. Et donc trois étapes. La première étape, pour le peuple d'Israël, on peut imaginer que ça correspond un peu à la traversée de la mer Rouge, hein. Où ils ont réussi, ils ont dit quand même, allez, on arrête, on accepte de plus vivre selon le principe d'Égypte. L'homme nouveau, c'est cette traversée du Jourdain, et entre, il y a ces 40 ans dans le désert, ça a pris du temps. Mais finalement, le temps que nous prenons dépend que de nous. Ça dépend que de notre intérêt par rapport à la parole de Dieu, intérêt à faire rencontrer le Saint-Esprit qui nous est donné avec cette parole que nous recevons. Pour que nous, à la fin aussi, nous puissions avoir ces fruits, avoir cette vie en nous, et que nous puissions réellement vivre tel que nous sommes. Et le Saint-Esprit utilise des moments pour nous perfectionner, pour nous faire grandir. Soyons à l'écoute de ces moments-là. Vivons-les intensément aussi avec lui, dans la prière. Mais rejetons le fait que nous nous laissons voler, nous laissons dérober. L'ennemi, le diable, on a le droit de lui dire non, au nom du Seigneur, tu n'as pas ta place. Laisse-moi peut-être dans mon désert, mais laisse-moi avec ma parole. Ne me l'enlève pas. Enfin, je vais terminer ce passage de 1 Pierre 5, verset 10. Parce que pour nous aussi, donc c'est ce que Pierre dit. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Après avoir souffert un peu de temps, ce peu de temps, ça dépend que de nous, comme je l'ai dit. C'est ce désert, la souffrance. On a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Mais en effet, c'est pas fait pour être trop long ce désert, c'est fait pour avoir un peu de temps. Et après ce moment-là, eh bien, c'est là que nous pouvons nous affermir. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous perfectionnera, qui nous affermira, qui nous fortifiera. Et on retrouve un peu là ces étapes dans nos vies. Alors voilà le programme de notre vie chrétienne pour cette année. Moi j'espère que voilà, on finira cette année, pas seulement comme on la commence maintenant. On a une grosse tuile qui nous arrive dans notre pays. Ben, soyons vraiment une bénédiction. Continuons à prier pour ses ennemis. Bénissons-les, continuons à prier pour eux. Mais bénissons-les avec cette réunion de notre connaissance de la parole, ce que nous entendons avec le Saint-Esprit. Et là, il y aura des conséquences, il y aura des fruits à notre foi. Voilà, comme Abraham, comme le peuple d'Israël, ben nous sommes en route vers Canaan, ben allons-y maintenant, rentrons-y, et je veux vraiment que le Seigneur nous bénisse, nous fortifie encore les uns les autres, que voilà, il puisse être en bénédiction et que nous-mêmes, chacun, nous ne sommes pas là pour rien. Nous avons besoin d'être en bénédiction aussi pour nos frères et sœurs. On a besoin de là, de ne pas être simplement des auditeurs, mais d'être des lettres écrites qui proclament vraiment la victoire aussi de Dieu dans chacune de nos vies. Oui, Père, vraiment, sois béni. Tu vois le programme qui est devant nous. Et ça, c'est ton programme. C'est ce que tu veux de chacune, pour chacune de nos vies. Et nous voulons vraiment te prier pour que tu nous parles encore à chacun, que tu te révèles à nous dans nos vies. Et merci encore de ton œuvre, Seigneur. C'est toi qui nous as montré la voie. C'est toi qui es venu sur cette terre en simple homme, en serviteur. Et nous sommes heureux de te connaître, de déposer aussi nos fardeaux, nos poids, nos peines. Et c'est vrai que, plus que tout, nous voulons vivre ce que tu nous as donné. Rappeler que, oui, je suis en Christ. Ma vie est cachée en toi et je veux simplement vivre à ta gloire maintenant. Aide-moi dans les jours de cette année et quoi qu'il arrive, vraiment, quelles que soient les circonstances de ma vie, oui, que mon âme soit restaurée, que je ne me laisse pas impressionner par la douleur, impressionner par la peur, la crainte, la solitude, mais que vraiment je puisse tout trouver en toi. Parce que c'est toi qui me l'as promis. Oui, sois béni au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen.
Bonjour. Avant de partager avec vous les annonces de la semaine, juste un petit détail. J'ai mis sur le panneau d'affichage au fond de la salle le communiqué que le CNEF a fait suite aux attentats de cette semaine. Et comme le CNEF est l'organe qui nous représente au niveau des autorités, face aux autorités, c'était intéressant de le partager. Demain, lundi, Femme Club. Alors, comment ? Chez Maria, voilà, oui, chez Maria, donc à Cergy, à 14h. Mardi après-midi, l'étude biblique des aînés, à 14h30. Mercredi, on a la réunion de prière en commun. En commun, donc, entre les différentes églises protestante et évangélique du Pays de Gex. Alors cette réunion aura lieu ici dans nos locaux pour des questions de facilité. Moi je vous invite à y participer. Il y aura tout d'abord un temps de louange. Et pour ce temps de louange, si certains musiciens veulent participer, il n'y a pas de souci, il y a de la place. Il y aura une répétition à 19h. Ensuite, il y aura un partage en différents groupes sur le thème des béatitudes. Et puis ensuite, bien sûr, un temps de prière. Donc c'est à 20h, pas 20h30 comme on a l'habitude chez nous, mais à 20h. Samedi, le groupe de jeunes. Dimanche prochain, café-thé ici au sous-sol à partir de 9h30. Le culte ensuite ici. Juste une information à partager. Lundi, dans une semaine, il y aura la première rencontre des commissions. Culte et croissance spirituelle, et puis la commission jeunesse. C'est important aussi d'y penser aussi pour la prière, et puis de suivre un petit peu cette mise en place qui se fait petit à petit. Le samedi 24, donc le samedi de la semaine prochaine, pas le prochain samedi, celui d'après, club d'enfants, donc ici à 10h du matin. Il y a encore, je pense, des papillons au fond de la salle. Prenez-en, distribuez-en. C'est important de faire connaître cela, puis que des enfants vraiment puissent participer. Le club d'été, comme ça a déjà été annoncé, la semaine du club d'été est fixée. C'est donc la semaine du 13 au 17 juillet. C'est important pour réserver les vacances, pour communiquer aussi aux enfants qui peuvent participer. C'est important de le noter dans les agendas. Continuons de prier pour Audrey, que Dieu lui donne la patience. Il y a déjà une bonne nouvelle, c'est qu'après 12 semaines, elle a enfin pu quitter son plâtre. Mais une moins bonne nouvelle, c'est que Audrey souffre beaucoup de son pied. Et puis, pendant les investigations qu'ont fait les médecins, ils ont remarqué avec les radios qu'il y avait eu un déplacement de la fixation qu'ils ont posée dans son pied. Donc, prions pour elle, que les médecins soient conduits, prions aussi pour qu'elle ait la patience, parce que maintenant, elle doit moins marcher, être plus statique. Vraiment, remettons-la dans nos prières durant ces 6 prochaines semaines, avant de refaire des radios pour voir comment ça évolue. Sinon, mercredi, Mathéo a été opéré. Je ne sais pas s'il y a eu des nouvelles. Il va bien, merci. Ouais, merci. Cette semaine, c'est dans le tournus des pays dans lesquels il y a de la persécution. On vous invite à prier pour le Yémen. Et Porte Ouverte a sorti le nouvel index mondial de persécution. Clément, si tu peux l'afficher, s'il te plaît. Je ne vais pas beaucoup vous en parler. Je vais le mettre au fond de la salle tout à l'heure. Mais ce qui est quand même juste la petite chose que je relève, ce qui est important de relever, vous voyez, il y a 3 pays en noir. Et 3 pays en noir, donc la Corée du Nord, la Somalie et l'Irak. En 2014, il y avait un pays en noir. Et les pays en noir, ça veut dire persécution absolue. Et donc, continuons de prier pour ces pays qui sont persécutés. On en reparlera aussi mercredi lors de la réunion de prière en commun. On abordera aussi ce sujet peut-être un petit peu plus en détail. Mais je voulais quand même le souligner. Il y a maintenant 3 pays en persécution absolue. Pensons à nos frères et sœurs qui sont dans ces pays. Et continuons à les remettre dans nos prières. Je vous rappelle aussi le cours sur l'islam que Christian Bibolet va donner. Il y a encore quelques flyers au fond de la salle. Les calendriers aussi, je crois qu'il reste encore quelques calendriers. Je pense qu'on va arrêter de faire les annonces pour les calendriers. N'hésitez pas, si vous avez encore des connaissances, à communiquer ces calendriers. Sinon, s'il n'y a pas d'autres annonces, je vous invite à vous lever et je partage avec vous un verset. Un verset dans Psaume 125, qui est une promesse et que l'on peut s'approprier cette promesse. Pareil aux montagnes qui entourent Jérusalem, l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Passez vraiment une semaine bénie, entourée par l'Éternel, par notre Dieu. Amen.